With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et si finalement, finir dernier d'une course n'était franchement pas un problème? Et peut-on ensuite gagner une course et même battre une championne olympique? C'est ce que nous allons découvrir avec mon invité du jour. Allez, c'est parti! Bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger et nous aident à progresser. D'ailleurs, si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit, c'est l'adresse suivante, bertrandsoulier.com/bonus. Et bien sûr, je mets le lien dans la description de l'épisode. Bon, vous le savez, je dis souvent que ma hantise au départ de ma première course, mon premier trail, et même souvent, est de finir dernier de la course. Peut-être que c'est une question d'ego mal placée. Mais quand Estelle a entendu cette anecdote, elle m'a dit, moi, ça m'est arrivé. Alors je l'ai invitée, car je voulais parler de ça. Et ce que je ne savais pas, c'est le nombre d'anecdotes que nous allions partager ensemble, pour faire l'épisode probablement le plus drôle et le plus décomplexant de l'histoire du podcast. Nous partons ainsi aux États-Unis, à quelques kilomètres du départ du marathon de New York, course qui, étrangement, ne fait pas rêver Estelle. Expatriée aux États-Unis depuis quelques années, Estelle a découvert là-bas une autre manière de courir. Ainsi, peut-être allez-vous saliver en découvrant qu'il y a des food trucks à l'arrivée des courses, ou alors en entendant le nombre incroyable de ravitaillements sur une course de 25 km. Non, là, je pense que vous n'êtes pas prêts. Plus globalement, nous en parler de la différence entre la France et les USA pour les courses, d'une approche parfois différente aussi sur certaines courses. Estelle partage aussi d'autres anecdotes de coureuses. Et là, on a beaucoup rigolé. Une course rallongée de 2 km sans prévenir, un départ raté car elle était aux toilettes alors que la course est partie un tout petit peu plus tôt, une rivière qu'elle ne veut pas traverser pendant un trail, ou encore pourquoi les auberges du Canada ne sont franchement pas les amis du coureur. Et puis, vous avez constaté qu'on peut finir dernier un jour et premier un autre. Estelle monte ainsi sur les podiums régulièrement, et cerise sur le cheesecake, j'ai envie de dire, elle a battu un jour une championne olympique. Oui, une championne olympique. Je vous laisse découvrir laquelle. Je dois vous le dire, le son n'est pas toujours très bon par moment, mais la bonne humeur est toujours présente. C'est parti pour l'épisode le plus décomplexant et une vision qui colle parfaitement à ce que j'appelle le positive running. S'entraîner, courir pour le plaisir, rencontrer des gens et collectionner les anecdotes amusantes et les émotions ressenties comme des trophées merveilleux. Allez, c'est parti. Bonjour Estelle.
Salut Bertrand, ça va?
Comment vas-tu?
Bah écoute, il fait beau. Je vais bien, il fait 15 degrés, c'est magnifique. La semaine dernière, j'avais tempête de neige, donc ça me change un petit peu, tu vois.
Oui, et puis alors, on doit le dire, c'est qu'on a un décalage horaire, parce que moi, je suis de nuit, toi, tu es de jour, on va le dire.
Toi, tu es en horaire d'hiver et moi, je suis en horaire d'été, on a la totale.
Voilà, voilà. Mais sauf que moi, la semaine dernière, je n'avais pas de neige et j'avais un grand beau temps, tu vois, je suis allé courir en short, en t-shirt, pieds nus dans l'herbe, etc. Bon, tout ça pour dire, t'es où?
J'habite à côté de New York, je suis à 4 miles de New York City.
Waouh, ah, voilà. Donc là, on voyage et tous ceux qui viennent d'entendre le mot New York viennent de clignoter des yeux, des oreilles, etc. Parce que le nombre de personnes qui m'ont dit, je vais aller faire le marathon de New York, je vais à New York, etc. Ah, je pense que c'est le rêve de tellement de coureurs d'aller à New York.
Ouais, bah écoute, tu vois, moi, il ne me fait pas rêver le marathon de New York City parce que j'ai plein de copains qui l'ont fait, des copains français, des copains locaux. Mmh. Et il n'est pas réputé pour être très roulant. Et ouais, clairement, bah, si j'avais tenté de m'inscrire à la loterie pour 2020. Mmh. Et puis 2020 arriva ce qui arriva. Je n'avais pas été ni sélectionné et il n'a pas été non plus couru.
Bah, c'est pour ça, en fait. Ils l'ont annulé parce que tu n'étais pas sélectionné, en fait.
Exactement, j'en suis certaine.
Bon, il faut le dire, c'est que tu n'es pas à New York en vacances, c'est que tu habites.
Oui, j'y suis depuis juillet 2019. Donc, je suis en expat là-bas pendant encore jusqu'à la fin de l'année 2022.
D'accord. Et Donc, bon, là, les gens ne le voient pas parce qu'on est en audio. Derrière toi, tu as un joli mur avec plein de dossards, etc. Donc, tu cours, bien entendu.
A priori.
Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on va pouvoir discuter un peu de un petit peu, si tu vois, parce que tu as commencé à courir quand?
Alors, moi, j'ai commencé à courir, ça fait déjà un petit moment. J'ai commencé pour l'année du bac. J'avais, je crois, 4 km à faire. En moins de 30 minutes, ça me paraissait mais monstrueux, donc je me suis entraînée mais 8 mois avant pour être sûre de pouvoir passer sous la barre des 30 minutes pour 4 km.
Attends, t'as eu les fameux trucs là que j'ai eu moi aussi, mais je te croyais bien plus jeune que moi quand même. Cette épreuve existe encore?
Bah écoute, ouais. Moi je crois qu'il y a 4-5 ans de différence.
Ouais, alors je me rappelle de cette épreuve. Attends, c'était quoi? Il fallait, t'avais de la régularité aussi, fallait, enfin nous, fallait qu'on court le plus régulièrement possible.
Voilà, c'est ça. Les trois premiers tours, il fallait qu'ils soient dans les 20-30 secondes près. Et le dernier, il fallait se déchirer et mettre une minute de moins, un truc comme ça. Et on n'avait pas le droit à avoir des chronos, des montres, quoi que ce soit. Et j'ai toujours été très régulière en course. Donc, en fait, tout le monde me suivait parce que tout le monde savait que j'avais une régularité. J'allais pas vite, mais j'étais régulière. Et j'avais coché toutes les petites cases pour avoir tout le maximum de points en courant super lentement.
Waouh! Donc, c'est toi le lièvre, en fait.
Le lièvre de pas mal de la classe, quoi.
Et t'as jamais arrêté de courir après? T'as toujours continué?
Non, après, pendant mes études, je courais les lendemains de soirée pour éliminer l'alcool, transpirer un peu l'alcool. Et après, je continuais par-ci, par-là, mais je préfère la piscine. Enfin, j'ai toujours préféré la piscine. Et puis il y a un jour un de mes collègues m'a dit mais tu cours, mais moi aussi, inscrivons-nous sur un 10 km ensemble. Bon, ce que je savais pas, c'est que le mec il faisait les 10 km en 33 minutes.
Ah oui, une belle fusée quand même.
Donc voilà, et en fait c'est lui qui m'a mis vraiment le pied dans il m'a mis à fond là-dedans et depuis, c'est devenu vraiment une grosse, grosse passion depuis une dizaine d'années. Quoi. Ça fait presque 20 ans que je cours et il a fallu 10 ans pour dire que j'aimais ça une fois que j'ai commencé à faire des courses, en fait.
C'est une fois que tu as commencé à faire des courses,
ouais. Tu
t'es rendu compte que finalement, tu aimais ça?
Ouais, j'aimais bien le sentiment de dépassement quand tu fais une course où tu te déchires, tu ne sais pas combien de temps tu vas faire et puis... Puis après, c'était il y a 10-12 ans, il n'y avait pas de... Alors si, il y avait les mondes connectés, etc., mais il n'y avait pas tout ce qui était Strava, etc., donc j'avais aucune idée à quelle vitesse j'allais. Donc la première course, ça a été le... Ah ouais, je suis lente, en fait. Ok, bon, c'est pas grave, je me suis déchirée, c'était drôle.
Tu le prends avec une philosophie, mais c'est ça qui est drôle, parce que, en fait, on ne le dit pas, mais le début de l'invitation... C'est qu'il y a une petite anecdote, mais qu'on racontera plus tard, on va la garder, parce que quand tu m'as raconté ça, je dis, alors là, il faut vraiment que tu viennes nous raconter ça, mais en fait, il y en a plein de sujets, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que t'as pas arrêté de courir, on va en parler aussi, parce que finalement, t'as fait une pause, parce que quand t'étais enceinte, mais t'as quand même couru un bon moment.
Oui, j'ai couru jusqu'à la fin du 5e mois et les 4 mois suivants, j'ai regardé mes paires de chaussures, j'avais des larmes aux yeux dès que je les voyais, je voyais les coureurs, je baissais la tête parce que j'étais là, mais je ne peux plus courir, je ne peux plus, je suis vraiment trop grosse. C'est pas grave, je continuais la natation jusqu'à la veille de l'accouchement, quoi.
C'est important le sport dans ton quotidien?
Ouais, ça fait... ça fait vraiment partie, depuis que je suis maman, c'est clairement mon moment rien qu'à moi. Je ne pense rien qu'à moi et à moi et encore un petit peu à moi quand même. Et sinon, avant, c'était vraiment un moment pour m'échapper, quoi, pour m'échapper, penser à tiens, j'ai une petite idée, qu'est-ce que je pourrais. J'arrive pas à mettre le doigt dessus pour comment améliorer tel et tel point. Bah tiens, je vais aller courir, ça va peut-être m'aider. Ma chef a été horrible, je vais aller courir, ça va me faire du bien. Voilà, c'était mon moment de. Je m'échappe, quoi.
Mais tu sais qu'il y a des mamans qui ont du mal à partir courir, justement.
Il faut avoir un bon mari.
Ah, c'est tout dans le mari, en fait. C'est le truc, c'est le mari. Moi, j'ai cru que tu allais avoir à me dire que tu avais une astuce, que tu avais une disposition, que tu t'étais dit à un moment donné, je sens que ça me fait du bien, tu vois, mais un truc de.
Non,
un conseil
c'est,
de maman,
ouais,
quoi.
C'est l'organisation. Non, c'est vraiment une grosse organisation et des fois, et même une organisation avec la nounou au tout début. Des fois, j'arrivais 35 minutes avant l'heure de le récupérer, 35 minutes. Je m'habille, j'ai le temps d'aller courir entre 28 et 32 minutes. C'est pas grave, j'arrive suante, puante chez la nounou, elle a essayé, elle a l'habitude. Mon fils, bon, bah, il s'y habituera, le pauvre. Hein. Et puis, voilà, quoi.
Ouais, remarque, ma fille, elle me dit des trucs, elle me dit « Ouh, papa, t'as couru aujourd'hui ?» J'ai dit « Bon, il doit y avoir une odeur qui se dégage un peu particulière. »
C'est ça, c'est maman qui pue.
Et puis des fois, elle me dit « Mais papa, t'as pas couru ce matin ?» Il y a un truc qui est « Pourquoi t'as pas couru ce matin ?» Je dis « Bah, j'irai plus tard et tout. » Mais c'est vrai qu'elle est habituée après. Elle me dit « Mais puis moi, je cours tous les jours. » Je sais pas combien de fois tu cours par semaine, toi.
Ça dépend, là, je suis à 4-5 fois par semaine et là actuellement j'ai en plus une séance de natation par semaine en plus.
Ah, beau volume.
Bah, je fais pas des gros entraînements à chaque fois par contre. Je suis plutôt voilà, si en ce moment j'ai des longs entraînements le dimanche, mais sinon je suis sur du 7-12 km à chaque fois, donc je pars pas très très longtemps en temps horaire, quoi.
On l'a dit, donc tu es aux États-Unis. Est-ce que tu vois une différence entre les Américains et les Français quand ça court ?
Ouais, c'est compliqué de trouver un club aux États-Unis. En fait, le sport est génial quand t'es un gosse. Et alors, soit j'ai mal recherché, je peux pas généraliser parce que c'est impossible à généraliser dans ce pays. Mais quand j'avais recherché dans ma ville, comme j'aurais fait typiquement en France, les clubs, etc. Ok, basketball, baseball, ah, plus de 15 ans, bon, bah, il n'y a rien pour les plus de 15 ans. Ah, si, du yoga. Bon. Alors, bon, j'ai une amie qui est prof de yoga et qui sait mon désamour pour le yoga, mais bon. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver d'autres sportifs. Et ils font pas. Enfin, moi, les gens avec les Américains avec qui je cours, ils font pas de piste, voire enfin très peu ou pas du tout de piste. Alors que moi, j'étais en club en France, on faisait de la piste deux fois par semaine. Donc, et quand ils font de la piste, ils comprennent pas mes entraînements ou quand je fais des 400, j'ai une minute de récup sur place. Ils comprennent pas. Pour eux, c'est la récup, c'est actif. Donc, on n'a pas les mêmes façons de s'entraîner non plus. Et après, par contre, ouais, comme en France, tu as du très bon, tu as du très mauvais, il n'y a pas trop de différence. L'équipement, a priori, qui est différent. Là, j'avais des amis qui coureurs ce week-end qui étaient là à New York, ils m'ont dit c'est incroyable, ils ont des vêtements qui sont complètement différents, tout est vachement mieux coupé, tout est. Bon, là-dessus, je n'ai pas vu trop de différence. Quoi. Mais bon, après, mon œil s'est habitué.
Ouais, et puis peut-être que. Il n'y a pas Décathlon aux États-Unis, peut-être. C'est ça aussi, peut-être que.
Si, il y en a un.
Il y en a un.
Enfin, ouais, il va peut-être fermer, a priori, mais il y en a un en Californie et qui livre dans tous les États-Unis. Et puis après, ils sont implantés aussi au Québec. Donc, à l'époque, on pouvait traverser facilement la frontière avant 2020, quoi. Les Français de New York allaient pas mal au Québec pour aller se ravitailler chez Décathlon.
Ouais, parce que tu peux te dire, des fois, il peut y avoir des marques différentes, etc. Et quand tu regardes en France, le nombre de gens qui courent en Décathlon, après, tu as l'habitude de certaines coupes, de certaines couleurs, tu reconnais tous les trucs. Peut-être qu'après, il y a des marques un petit peu différentes. Moi, c'est vrai qu'il y a des marques qu'on ne connaît pas. Franchement, il faut le dire. Moi, je suis quelques coureurs américains. Il y a des équipements. Alors après, il y a des marques qui traversent. Les Under Armour et compagnie, bon, on parle même pas de Nike et compagnie, mais c'est vrai qu'il doit y avoir tout un écosystème de la course à pied qui doit être très développé aux États-Unis.
Et c'est plutôt des petits magasins, des petits magasins de running qu'il y a, c'est pas des grosses, enfin, des fois c'est des chaînes, mais c'est pas des gros centres commerciaux, t'as pas un choix, enfin, moi, les magasins autour de chez moi, il n'y a pas un choix complètement déraisonnable, donc c'est assez agréable, quoi. C'est un petit peu l'ancienne, un peu, j'aime bien.
Et sur donc on a parlé un peu d'entraînement sur les courses. C'est t'as fait des courses donc en France, t'as fait des courses aux États-Unis. Tu vois une différence ?
Je fais podium à chaque fois quasiment aux États-Unis, donc ouais, je vois des différences. A priori, je suis extraordinaire et aux États-Unis, alors que j'étais vraiment dans la moyenne basse en France, quoi. Donc ça me fait marrer. J'ai encore fait un podium là ce week-end, donc ça me fait marrer. En fait, j'ai l'impression d'être devenue une sportive de haut niveau, alors que non.
Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, c'est quoi?
Ouais, c'est vrai.
C'est que tu as progressé beaucoup?
Alors, j'ai progressé un peu, parce que je pense que la météo fait que tu t'entraînes vraiment dans des conditions beaucoup plus difficiles. Alors, j'étais en Île-de-France, à côté de Paris, et les conditions sont vraiment plus difficiles. L'été, on tourne à 95% d'humidité. La température la nuit, quand elle a de la chance, elle descend à 24. Donc voilà, entre 24 et 36 degrés pour s'entraîner, 95% d'humidité, bah, au bout de 2 km, t'as l'impression de sortir de ta douche. Donc ouais, j'ai un peu progressé, mais après, bon, après, je suis pas une grande fan des grandes courses non plus. Donc bon, c'était plus facile de faire un podium quand il n'y a que 500 participants, quoi.
Alors ça, je sais pas, parce que moi il y a des gens qui sont installés sur des courses il y a 200, 300, 400 participants, mais si t'as que des flèches et que des avions, hein, on a eu l'anecdote un jour, je crois que c'est Mehdi qui nous a raconté ça, qui s'était inscrit sur une course où il s'était vraiment pris quand même un bon bouillon par des jeunes, etc. Bon, il y a des gens qui ont fait des marathons où il y a 200 participants, tu sais, ils courent tout seuls, hein, y a aucune chance de faire un podium et beaucoup de chance d'arriver dernier aussi.
Ouais, bah, écoute, je sais pas, je dois sélectionner les bonnes courses alors, mais c'est vrai que la toute première course que j'ai faite ici, alors c'était déjà une distance complètement bizarre, c'était 4,5 miles, donc je sais même pas, ça doit faire 8 km, un petit peu dans le genre. Et en fait, c'était, il y avait une épingle à cheveux, puis je regarde, une fille, deux filles, plus de filles, oh punaise, c'est moi la troisième. Elle est où la quatrième? Et puis bon, bah, j'ai accéléré, j'ai tenu le rythme. Et en fait, celle qui était l'équivalent de la deuxième, elle était guide accompagnatrice pour un aveugle, donc elle ne courait pas sous dossard. Bah, j'ai fini deuxième. Et là, je me suis dit, sympa ce nouveau pays, j'aime bien.
Donc ils te font monter sur le dossard, ils donnent t'as des quoi? T'as des primes, t'as des cadeaux, t'as quoi là?
Bah, ça dépend des courses. La plupart, en fait, t'as une petite plaque ou une médaille en plus. Il y en a une, ça, c'était janvier 2021. On n'a pas eu de confinement, nous. Donc, en janvier 2021, j'avais même des courses et tout. Et là, j'étais appelée, j'étais sur un terrain de basket, mais vraiment le truc à l'américaine que tu peux voir dans les films, où j'ai été appelée en plein milieu du terrain. Estelle, numéro 2 ou numéro 3, je ne sais plus, enfin bref. Et puis, tu poses avec ta médaille, ton masque, tu poses avec les autres participants. Et donc, je pense que je suis passée dans le canard local pour montrer que j'avais fini troisième de cette course. Mais ouais, voilà, c'est assez rigolo. Mais il n'y a pas toujours une cérémonie, quoi.
Comment ils le prennent, en fait? Ils sont compétiteurs? Ils sont comment, là-bas,
Ben, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu. Enfin, toi, c'est. T'as plus le sentiment qu'il faut se dépasser, c'est quelque chose de bien, c'est un accomplissement personnel, etc. Mais ils y vont pas pour la gagne. Tu vois, ils y
D'accord.
vont juste pour, voilà, ils y vont pas pour claquer leur RP, ils y vont juste parce que voilà, ils sont inscrits, ils vont jusqu'au bout. Mais ouais, il n'y a pas ce sentiment-là. Là, la dernière course, une des dernières courses que j'ai faites, là, c'était au mois de janvier. Il y a un petit papy qui est venu me voir quand même à la fin, qui m'a dit en anglais, merci de m'avoir botté le cul et de m'avoir tiré en avant, parce qu'en fait, les 2 derniers kilomètres, on se faisait que de se doubler. Et en fait, moi, je voulais pas lâcher, lui non plus. Et voilà, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme ça qui voulait pas lâcher, qui voulait pas lâcher. Et c'était rigolo, mais voilà, lui, c'était une autre génération. Il avait un bon 75 ans, donc.
Ouais, c'est cool.
Ouais, c'était génial, quoi. Je me suis dit, j'ai quand même eu peur de le faire claquer, quand même, le pauvre.
Oh, mais attends, tu
Non, c'est
étais là et
méchant.
tout.
Non, non, je pense qu'il avait une meilleure forme que moi, en
Les
plus.
vieillards galopants maintenant et tout. Attends, non, mais c'est chouette d'avoir parce que moi, ça nous arrive souvent. On envoie de ces papys coureurs, etc. Et puis on se rend compte qu'en fait, il y en a, ils ont une sacrée forme, quoi.
Ouais, c'est clair. Moi, j'en ai là un ou deux dans le avec qui je cours là, qui ont 65 ans et waouh. Ok. C'est où pour signer pour être en même forme que vous à 65 ans, s'il vous plaît?
Et ils t'ont pas donné leur secret de longévité?
Non, a priori, ils mangent pas trop de burgers ceux-là, donc c'est peut-être ça le secret. Pas trop de nourriture américaine et puis ça passe.
On avait dit dans un épisode de Sport Nutrition avec Mathieu Blanchard, je lui ai posé la question sur l'alimentation justement, comment ça marchait, et on disait qu'il y avait vraiment des extrêmes aux États-Unis. C'est vrai que moi, dans mes souvenirs des États-Unis, la première fois que je suis rentré dans un Walmart et que j'ai vu le rayon chips, j'ai dit, mais c'est plus grand que mon supermarché à moi, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Et pourtant, il y en a qui mangent très très bien, mais il y en a un paquet qui mangent très mal, mais c'est très varié quand même. C'est difficile de généraliser.
Non, bah, y a pas de... ouais, c'est hyper compliqué de généraliser. C'est quand même plus compliqué qu'en France de bien manger, parce que ça vraiment, en France, ça coûte cher de bien manger. Ici, ça coûte très, très cher de bien manger. Mmh. Et il n'y a pas les mêmes produits. Enfin, je crois que le jour où j'ai pris un fromage, je m'en suis aperçue à la fin qui était traité au lait de croissance. Et là, tu fais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il va y avoir un troisième bras qui va pousser, c'est pas possible. Et ouais, donc il y a beaucoup de produits, les OGM qui sont pas cachés. Mmh. Voilà, t'as beaucoup de produits où il faut lire entre les lignes, quoi. C'est un peu long, quoi. Vraiment beaucoup plus cher. Les choix de produits qui sont pas les mêmes. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont quand même très différentes et un peu compliquées, mais bah, en fait, c'est. Comme partout, tu t'adaptes et tu commences au bout de quelques mois à trouver les bons produits qui sont le plus naturel possible, quoi.
Oui, c'est vrai qu'après il y a des pratiques aussi. Moi, j'ai vu des reportages sur la viande. Je pense que il y a quand même, quand tu regardes un bout de viande, ça va pas être si facile que ça à choisir.
Ben, on n'en mange pas beaucoup, donc ça aide. On n'est pas végétarien, mais je pense qu'on est, on était à deux doigts de le passer quand on est arrivé ici. Donc, ouais, on n'en mange pas beaucoup, et on essaie de choisir dans des endroits où on voit un peu plus de choses sur comment la viande est élevée, etc. Et t'as par exemple les magasins Whole Food où t'as le temps d'élevage de tel animal, etc., etc. T'as un peu plus de détails qu'on peut trouver que ce qu'on peut trouver en France. Bon, après, voilà, les prix vont pas être les mêmes, donc c'est pour ça aussi, c'est plus un choix écologique et budgétaire de pas manger trop de viande, quoi.
Bon, maintenant qu'on a parlé alimentation, quand même, on va parler de courses quand même, parce que bon, on a un peu placé le contexte, etc. On va te dire quand même pourquoi je t'ai invité, parce que le moment où tu m'envoies un premier message, c'est que ce qui t'a fait réagir, c'est quand je racontais que ma hantise, c'était de finir dernier d'une course.
Exactement, ça m'est arrivé, c'était avant que je devienne maman, donc je dirais que c'était il y a 9 ans, et je m'étais inscrite, j'ai jamais couru au-delà d'un 10 km, et là, j'avais vu que la ville à côté de là où j'habitais proposait un 16 km entre elles. Et j'ai dit 16 km, ça me paraît le bout du monde. Je vais y aller, je vais m'entraîner. Voilà, je suis bien entraînée, j'étais contente, j'étais fière. Je fais ma course. Bon, il se passe toujours des trucs dans mes courses. Alors, il y a un chien ou deux qui me sont rentrés dessus, qui sont à moitié sautés dessus. De toute façon, quand il y a un gros chien, c'est toujours pour ma poire pendant les courses. Et à la fin, à la toute fin, je rattrape, ça faisait longtemps que j'étais toute seule, je rattrape une autre fille, je dis bon, super, il y a encore du monde sur cette course, je ne suis pas abandonnée en plein milieu des bois. Et là, il y a ses copains qui la rattrapent à la fin, qui font le sprint final avec elle, ça lui a donné une patate. Donc, moi, j'avais plus rien dans les pattes, donc moi, j'ai couru, j'ai fini. Et puis, bah, j'ai pas su, en fait, tout de suite que j'étais la dernière. Je pensais qu'il y avait encore du monde derrière moi, en fait. C'était un 16 km de trail qui devait faire 400 D+. Et j'ai dû mettre, 1h40. Donc, ça me paraissait pas non plus un temps trop vilain, quoi, pour un premier essai. Et ben, c'est en rentrant à la maison, en voyant le classement final, que, t'es dernière. Ça t'a un petit coup au moral quand même.
Ouais, parce que sur le coup, tu t'en es pas du tout rendu compte sur la course.
Non, ça faisait longtemps que je voyais personne sur la course. Ça faisait un moment que le dernier ravito, il était déjà passé depuis 4-5 km, soit. Mais il y avait encore la rue Balise régulièrement. Donc, je n'ai pas perdu en milieu des bois, c'était déjà pas mal. Mais c'est tout, quoi. J'espérais bien qu'il y avait du monde derrière moi. Enfin, je pensais pas être si lente que ça, quoi.
Le pire, c'est comme tu dis, c'est que c'est pas une vitesse si lente que ça, finalement.
Mais non, c'est ça le pire, quoi. Et les autres années, j'ai regardé, parce que je l'ai refaite, cette course, elle était tip-top. Et les autres années, il y a des gens qui l'ont fini en 2h10, quoi. Donc, j'ai juste pas eu de chance cette année-là, quoi.
Qu'est-ce que tu te dis, quand même, quand tu revois ton classement, que t'es dernière?
Ah, franchement, t'as l'ego qui en prend un coup en me disant... Punaise, non, mais je peux pas finir dernière. Enfin, j'ai tout donné pour cet entraînement. J'ai passé un temps incroyable et tout. Et puis derrière, toi, j'ai un mari qui est hyper méga positif, qui me dit, t'étais pas fini dernière. Il y a des gens qui se sont inscrits, qui se sont pas présentés. Et puis, il y a des gens qui ont pas bougé de leur canapé. Donc, finalement, c'est eux les derniers. Enfin, quand même, sur le papier, je suis dernière. Ça m'a failli m'arriver sur une deuxième course, en plus.
Ah ouais.
Tu vois, j'ai fini avant-dernière, je crois. Mais j'ai été dernière pendant... elle faisait 24 km, ce trail, et j'ai été dernière pendant 22 km et demi, je pense.
Ah, mais c'est qu'à la fin, t'as réussi à doubler quelqu'un ?
Mais en fait, c'était... Alors, ouais, il y avait une barrière horaire et il fallait avoir passé les 12 premiers kilomètres en 1h20 de mémoire. Et mes potes, la veille, ils disent oh, 1h20, 12 kilomètres, ça passe. Ouais, enfin, les gars, on aura déjà 500 de plus dans les pattes. Moi, je passe pas. Je pense que je ne passe pas. J'arrive à la barrière horaire à 1h21. Je ne passe pas. Et les gars me regardent et me disent t'es comment ? Bah, ça va. Je suis lente, mais ça va. Tu veux continuer ? Oui, s'il vous plaît. Je suis en plein milieu des bois, là. Je voudrais bien rentrer, s'il vous plaît, en fait. Bon, bah, écoute, on est pour fermer la course. Donc, on court avec toi. Et puis, bah, si tu veux papoter, on papote. Bon, bah, j'ai discuté avec les gars qui fermaient la course. C'était hyper cool. Et au fur et à mesure, on a revu des gens arriver. Et puis, ils m'ont dit, t'es un peu dans les jambes pour rattraper. Bon, on va essayer. Et puis, bah, voilà, au final, j'ai pas fini. Normalement, j'aurais même pas dû la finir, cette course-là. J'aurais pas dû passer la barrière, quoi.
C'est sympa, quand même, qu'ils t'aient laissé continuer, qu'ils aient couru avec toi.
Ouais, c'est vraiment cool, quoi. Parce qu'en plus, il y avait vraiment du monde encore derrière moi et qui avait l'air de plus traîner la patte. Moi, je revenais de blessure, donc je savais que j'avais pas d'entraînement, mais que le mental était là. Donc, tant que le cerveau va bien, tu y vas tranquillement, puis tu marches. S'il y a besoin de marcher, tu marches, et puis voilà, quoi. C'est pas bien grave, c'est un trail. Finalement, si c'est sur route, tu as le droit de marcher.
Ouais, mais la barrière horaire était quand même pas très haute, hein, finalement, quand il
pensait. Oui, c'était vilain, quoi. Enfin, 1h20, 1h20, 12 km avec 500 de plus, bah écoute, entraîné ou pas entraîné, je savais que j'étais short, quoi. Voilà.
Okay. Et tu te rends compte que maintenant, tu me dis, aux États-Unis, tu fais des podiums ?
Et pourtant, je suis toujours pas rapide.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, tu n'es toujours pas sûre de passer ta barrière horaire de 12 km en 1h20.
Non, je la passerai même pas, quoi. Puis là, en plus, j'ai pas du tout les mêmes terrains. Parce que j'avais la forêt de Clamart, j'avais le parc de Saint-Cloud avant comme terrain de jeu. Donc, je faisais vraiment... Pas que du petit chemin, mais j'en faisais vraiment quand même beaucoup. Et là, ici, j'ai moins de petits chemins. Donc là, je pense que je suis incapable de faire un trail maintenant, quoi. Le dernier que j'ai fait, c'était il y a 2 ans, quand j'avais encore l'entraînement de la France, quoi.
Donc, ça veut dire que tu fais quoi ? C'est de la route ?
Ouais, je fais de la route. Alors, il y a beaucoup de 5 km ici. C'est une distance, c'est la distance classique, le 5 km. Et il y avait... Fin 2020, début 2021, il n'y avait que des 5 km qui étaient proposés. Donc, bon, bah, si tu voulais raccrocher un dossard, c'était un 5 km. Et puis là, maintenant, oui, là, j'ai fait en septembre dernier le 10 miles du Bronx. C'était pas comme tout. Et puis là, j'ai fait le week-end dernier un semi-marathon. Mais voilà, c'est plutôt le 5 km ici. Et c'est pas du tout la distance en plus qui me convient parce que. Je ne suis pas très légère, donc j'ai du mal à démarrer.
Ouais,
donc,
c'est, le 5, c'est quand même une distance qui est rude hein, pour quand on est lent, quoi. Enfin, quand on se trouve lent.
C'est ça. C'est, limite, j'ai besoin de m'échauffer pendant 2-3 km avant de partir pour être sûr d'être à pleine puissance. Donc, des fois, tu te dis que tu couvres presque autant en échauffement que pour la course, quoi.
Ah, mais je pense que tu as même intérêt à courir presque plus pour... moi je sais que sur mon dernier 5 km j'ai dû m'échauffer au moins 5 km j'en suis à peu près certain, tu sais.
Ouais, puis il y a en plus le petit coup, t'as toujours un doute si tu t'es bien inscrit sur ça, 5 km parce que les distances ici c'est en miles et les courses c'est souvent marqué en kilomètres, donc tu vois le premier panneau 1 miles 2 miles et là tu te dis mince, je me suis inscrit sur un 5 miles, un 5 km là. j'ai pas la bonne vitesse pour tenir sur un 5 miles. Là, je suis trop rapide. Et puis surtout qu'en fait, 5 km, c'est 3,1 miles. Donc, tu le vois, le panneau 3, et là, tu me dis, ça va s'arrêter, j'espère. Et il y a une fois, ça s'est pas arrêté. Les gars, ils ont... Donc, je parle à un monsieur, je dis, l'arrêt, c'était il y a 300 mètres. Il me dit, oui, mais on a décidé de continuer un peu plus. Mais vous pouviez pas juste le dire. Donc bon, finalement, je me suis retrouvée à faire 7,5 km en étant partie sur une vitesse de 5. Bon, j'ai un peu morflé, quoi.
Mais c'est drôle, c'est quoi? Ils se sont dit, on va changer la distance, il y a pas de...
Ouais, c'était vraiment la toute reprise là, des courses. C'était 2021. Alors nous, on avait le droit, je crois, à 150 personnes maximum. Mmh. Donc c'était un rassemblement de 150. Donc c'était un tout petit truc. Et a priori, en fait, ils se sont aperçus que l'arrivée, elle était trop proche du départ. Et donc, il pouvait y avoir un mélange des personnes.
Ouais.
Et donc, pour limiter, ils ont décidé de décaler un petit peu. Mais en fait, c'est une décision qui s'est faite, je crois, le matin même de la course, quoi. Donc, en fait, ils ont juste oublié de nous alertir, quoi.
Ouais, c'est drôle parce que tu te rends compte dans la course, tu te dis, mais ma course, elle ne s'arrête pas, en fait. Elle est bien plus longue que prévu, quoi.
Ouais, elle était... Mais pourquoi? Il fait froid, les gars, là, on est au mois de janvier. Moi, je voudrais juste m'arrêter et rentrer chez moi, là.
Et on en rigole, mais ça fait quand même une course qui est 50% plus longue, hein, si on fait un calcul. Donc, c'est pas négligeable. Hein. C'est pas juste 100 mètres de plus.
Ah oui. Je crois qu'en fait, t'as trouvé vraiment l'invité qui a que des trucs chelous à raconter sur toutes les aventures de course entre mes presque dernières places, mes dernières places, mes podiums, alors que franchement, mais... J'en rigole quand j'en fais, quoi, parce que je me dis, mais non, mais je les vois pas, quoi. Après, je suis très contente d'accepter, quand même.
Bah ouais, attends, et tu dois avoir une collection de petites coupes, de petites médailles, des choses comme ça, là.
J'ai toutes les petites médailles de deuxième et troisième place. J'ai pas encore réussi à faire une première place. Je suis assez déçue, quoi. Encore un petit peu de temps pour m'y préparer, c'est bon.
Ouais, c'est ça ton objectif, en fait, c'est de dire, avant de rentrer en France, il faut quand même que j'arrive à faire une première place, quoi.
Ouais, va falloir que je choisisse la bonne course alors.
Il y en a beaucoup des courses comme ça dans...
Ouais, il y a... Alors, quand j'étais en région parisienne, je trouve que tu trouvais déjà des courses quasiment presque tous les week-ends si tu cherchais un petit peu. Mais là, c'est tous les week-ends et tu peux en trouver dans un périmètre de 15-20 km autour de chez toi, tu en trouves 5-6 des fois, quoi. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait que c'est facile aussi de faire un podium parce qu'il y a tellement de choix. Que voilà quoi, ça aide aussi ce qui est pas grand monde quoi. Puis après les prix, alors moi je me plaignais des fois des prix des dossards en France, plus jamais je me plaindrai des prix des dossards en France.
Ah ouais.
Ouais, c'est extrêmement cher ici. Bon après c'est pareil, t'as le ravitaillement de la fin, c'est pas les mêmes ravitaux qu'en France quoi. C'est vraiment, enfin tout est plus gros quoi, tout est plus gros, tout est plus grand. Le premier trail que j'ai fait ici, à l'arrivée, il y avait des food trucks qui proposaient une soupe, un curry végétarien, des bagels, des choses. Tu fais ton repas à la fin de ta course, quoi. Donc, c'est assez extra, quoi.
Ah, y compris dans le prix de ton inscription, quoi.
Ouais, c'est ça. Là, l'avant-dernier semi que j'ai fait, t'avais sur ton dossard, t'avais un petit truc à déchirer pour aller récupérer ta part de pizza dans le food truck qui faisait les pizzas.
Sympa. Voilà.
Et bien, écoute, le ravito pizza, quand tu viens de courir un semi, j'y aurais pas cru, mais c'est vachement bien.
Ah bah tu vois, et bah, ça tranche un sujet de discussion qu'on a souvent en sport et nutrition, c'est qu'est-ce que tu manges après. Et il y a un gros débat entre les burgers, les pizzas, et puis ceux qui sont très stricts sur leur alimentation et tout. Et tu nous prouves que la pizza fait partie des choses qui sont intéressantes.
Bah écoute, ouais, c'était pas mal, hein. C'était bien réconfortant. Tu viens de te donner, t'es encore tout sale, puant, tout plein de sel de partout. Et puis là, t'as ta pizza toute chaude, dégoulinante de fromage. Et bien écoute, un grand plaisir. Alors que je suis pas une fan de pizza à la base, mais un grand, grand plaisir, quoi.
Bah écoute, tu vois, ça, c'est une bonne idée. Ils devraient l'importer. Ça devrait être un concept qui devrait être importé en France. Des food trucks à l'arrivée des courses.
Ouais, je trouve ça vraiment, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Ça, j'apprécie pas mal, quoi. Et t'as aussi, là, t'es vraiment aux États-Unis, t'as le food truck glace aussi à la fin. À chaque fois, t'as ça, quoi.
Ah ouais.
Bon, moi, ça me tente pas trop, mais bon, pourquoi pas, quoi.
C'est marrant, hein, c'est après ces petites ces trucs comme ça, mais après moi j'ai des courses dans mon coin, tu sais, en Auvergne, où on te sert des vrais repas à la fin aussi, hein, tu sais, ça arrive, hein, quand même. Hein.
J'avais eu sur la course où j'ai fini dernière, je sais plus si c'était cette année-là ou l'année suivante, où tu avais les pâtissiers locaux qui avaient été invités et tu avais plein de petits choux choux à la crème faits maison qui étaient à déguster en ravito à la fin. Extra.
Si ça se fait encore, il faut que tu donnes l'adresse, il faut que tu dises lequel c'est, parce que les gens vont surveiller pour se dire mais attends, c'est où qu'on mange des petits choux comme ça?
Ben, je l'ai vu qu'une seule fois sur leur course, ça s'appelle la Dagobéranienne et c'est à Ville d'Avray dans le 92. Et ouais. Chaque année, ils changeaient un peu le format. Des fois, c'était un 18 km, des fois, c'était un 16, des fois, il y avait aussi un 8, un 7. Enfin, c'était... Chaque année, ça changeait, mais c'était vraiment bien parce que c'est uniquement dans la forêt de Ville d'Avray. Tu sors quasiment pas sur route et vraiment, enfin, c'est une super forêt, donc vraiment super sympa, quoi.
Ah ouais, bah écoute, bah, les gens vont le noter. Alors après, s'il y a le petit chou, hein, tu dis pas qu'il y a le petit chou tout le temps, hein, tu dis que ça change un petit peu les concepts,
voilà,
etc.
Je les ai eu qu'une fois. Mais... je l'ai dit la première fois à la course et je les ai eu qu'une seule fois.
Voilà.
Et même... sur cette course-là, il y a aussi une fois, ils ont démarré la course avant l'heure de la course.
Ah, donc t'as loupé le départ ?
Bah, j'étais aux toilettes. Donc oui. La course est partie à 9h57, donc j'avais encore le temps. Bah, a priori, non.
Et en fait, on est en train de rigoler, mais tu rassures tout le monde parce qu'il y a tellement de personnes à qui ce genre d'aventure peut arriver, ou qui disent je voudrais pas que ça m'arrive, etc., qui les cumulent. Mais je connais des gens, alors je sais pas s'ils écoutent encore le podcast, mais j'en connais qui ont loupé des départs de course aussi parce qu'ils étaient en train de se changer tranquillement, etc. Donc ça arrive à plein de gens, ces histoires-là. Sauf qu'il y a personne, il y a pas grand monde qui veut l'avouer, mais ça arrive à plein de gens, ces histoires-là, en fait.
Moi, j'étais dans un petit château dans Ville d'Avray. Donc, le départ, ça se faisait devant le petit château. J'étais dans le fait du petit château, quoi. Donc, je les ai vus partir parce que tu les voyais par la fenêtre. Je me suis dit, bon, bah, ils sont partis sans moi, en plus. Je sais plus qu'à les rattraper si je ne veux pas encore finir dernière.
Et t'as pas fini dernière cette année-là?
Non, j'ai pas fini dernière cette année-là.
Ah, tu vois, comme quoi. Hey, hein, franchement, le tout petit coup de stress au départ, tu dis, hey, mais non, faut pas que j'arrive dernière et tout, faut pas que ça recommence. Mais c'est drôle, en fait, sur ces histoires-là, parce que le jour où tu arrives dernière, donc tu t'en rends pas compte.
Non.
Et comme ça, ton mari est positif, etc. Mais toi, après, quand tu te remets à courir, tu dis la course suivante, tu te dis quoi ?
Je me dis, je vais faire un trail de 16 km tout de suite, les gars. Psychologiquement, on peut se remettre sur un 10, c'est bien. C'est bon, là, je suis vaccinée. Et puis, finalement, après, j'avais été convaincue par des amis de faire un semi-marathon. Donc voilà, après, j'ai parfait de 16 km tout de suite pour me dire bon, quand même. Donc, j'étais passée à distance au-dessus en me disant peut-être que sur un semi-marathon, je finirais pas dernière.
Et donc, t'es pas finie dernière?
Non. Bah, finalement, c'est pas réarrivé.
Bah écoute, moi tu vois, je me dis, alors il y a des courses où les célèbres les derniers, ce qui est particulier chez toi, non, en fait, c'est que tu n'en avais pas rendu compte, parce que tu aurais pu être avec les serfils, tu aurais pu avoir un truc en disant, tu sais, c'est où qu'ils avaient fêté ça, c'est je sais plus quel marathon, j'ai vu, ils avaient fêté le dernier, il était passé à la télé, je sais plus quoi, tu vois, mais il y a des marathons qui fêtent les derniers.
T'as un panier garni parce que t'arrives le dernier, quoi.
Ouais, et là toi, rien du tout, quoi, ils t'ont rien dit, en fait.
Je pense qu'en fait, il devait y avoir réellement du monde derrière moi et ils ont abandonné, quoi. Parce que pour le coup, ils n'avaient vraiment pas l'air d'être au courant que j'étais dernière, quoi.
Et ça se trouve, il y en a un qui est vraiment arrivé après toi, mais hors je sais pas quoi, et qui lui a eu le panier garni.
Ou alors ils avaient peut-être tout démonté déjà et puis ils étaient partis avant qu'il arrive, quoi.
Ça, c'est la grande hantise. Tu sais que le marathon de Paris avait ce problème-là, hein, qu'il y a des moments où ils démontaient les trucs, les gens ils arrivent sur les contre-allées au lieu d'arriver sur la grande arche, etc., d'arriver et tout, hein, à cause de ça. Je sais plus quel marathon c'était où vous avez montré que le dernier avait été fêté, passé à la télé, etc. Je dirais que c'est un pays nordique, mais je vais dire une bêtise, donc je vais pas la dire. Mais c'est vrai que souvent t'as quand même un serre-fil quand t'arrives dernier.
Ouais, même là, j'avais personne, quoi. Je pense que vraiment, les autres qui étaient derrière moi ont dû arrêter, quoi. C'est pas grave, j'ai au moins mon nom qui est quelque part sur la liste, en dernier, c'est facile à me retrouver, quoi.
Voilà, mais ce qui est bien, tu vois, au moins, c'est que pour ceux pour qui ça arriverait, c'est que ça prouve que tu peux arriver dernière, et puis tu repars. Puis t'en as refait plein,
ouais,
des courses.
Ouais, j'en ai refait énormément depuis. Et puis c'est surtout, en fait, a posteriori, je me suis surtout dit, mais ton temps, il était loin d'être mauvais, quoi. C'est pas parce que t'étais trop lente, trop, etc. Enfin, voilà, c'était une course qui était peut-être exigeante. Tu l'as faite. Et puis, de toute façon, il faut bien un dernier, quoi. Il y a un premier, il y a un dernier, quoi.
Puis comme tu dis, il y a peut-être une question de circonstance aussi, parce que les autres années, il y en a qui finissent en 2h10. Ah ben, ce coup-là, avec ton temps, t'étais loin d'être dernière parce que t'avais quand même du monde derrière, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un truc, tu gères toi ta vitesse à laquelle tu cours, mais tu peux pas gérer si les autres, ils sont là, s'ils sont pas là, s'ils abandonnent, si ou quoi que ce soit, quoi.
On tourne de temps en temps pour voir si tu vois du monde, mais
c'est pas ça, en fait. Bon, ça apprend un peu le stoïcisme aussi, de dire, allez, je m'occupe de moi et puis je regarde pas trop les autres.
Ouais, c'est bon. Après, Enfin, maintenant, j'en rigole. En fait, maintenant, ça me fait presque plaisir d'avoir fini dernière en me disant, tu arrives dernière, que t'es mauvaise, en fait. Quoi. C'était juste que cette course était peut-être trop élitiste ce jour-là. Et puis c'est tout, quoi. J'ai fait le job. Mon job, c'était de passer d'un 10 à un 16 km. Je l'ai fait. Point bas.
Et t'as réussi à le faire. Et voilà.
J'ai réussi à le faire. Sans me perdre dans la forêt. Ça m'est déjà arrivé aussi.
Ah oui, donc c'est ce que j'ai te demandé. Tu t'es déjà perdu.
Oui. J'ai fait c'était quoi? C'était un. Ça devait être un 10 miles ici en trail. Et c'était une toute petite organisation. J'avais pas mal échangé avec la fille de l'organisation. Et j'étais là, en fait, comme représentant de mon club aux US. Et on voulait faire des partenariats après pour faire des courses ensemble, etc. Et petite organisation, petit budget. Et ben là, il n'y avait même pas de rubalise pour indiquer le chemin. C'était des fils de laine. Ben, c'est pas bien gros, un fil de laine. Donc, il y a un moment, en fait, je me suis perdue. Et puis, j'ai retrouvé un fil. Alors, je l'ai resuivi. Et au final, moi, j'ai pas couru 10 miles. J'ai couru 14,5 km. Donc, j'ai arnaqué la course, en plus. Quoi.
Ça fait combien? Ça fait...
Normalement, 10 miles, c'était 16 km. Ouais. Donc, en gros, j'ai couru... comme c'était deux tours, la deuxième fois, je me suis dit, bon, cette fois-ci, concentre-toi. Tu peux le faire. Tu peux essayer de te retrouver. La même bourde. Donc, bon. Voilà.
Alors,
donc j'ai triché, mais sans le savoir. J'ai pas fini sur le podium cette fois-ci, donc c'est pas grave, sinon je leur ai dit que j'avais triché, quoi.
Ouais, mais si je peux te rassurer, moi je me suis déjà perdu aussi sur une course. Il y a une course où je me suis perdu au bout de 5 km. Elle faisait 36, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai fait les 5 km de départ. On a fait une grande boucle où on est parti dans plein de sens et on a refait les 5 km de départ dans le sens inverse qu'on n'aurait jamais dû faire. Et on n'est pas arrivé dernier. Je te jure, on n'arrive pas dernier. Et on a même doublé des gens qui arrivaient et on arrivait super frais alors qu'on était au bout de notre vie à la fin. On a même réussi à doubler des gens qui, eux, avaient fait le parcours complet, etc. Alors qu'on avait fait plus de kilomètres. Tu vois? Donc le truc, on s'est dit, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les pompiers voulaient nous ramener parce qu'on n'était pas sur le bon truc, etc. On dit non, mais on va faire notre kilométrage, etc. Donc ça arrive. C'est vrai que une rubalise qui se voit pas, etc. Et ce jour-là, maintenant j'en rigole, hein. Mais on avait failli partir, on suivait une trace au sol, et si on avait suivi jusqu'au bout, c'est une course de 80 km de BTT. Donc ça arrive à tout le monde. Et ce jour-là, on arrive à un ravitaillement. C'était le ravitaillement des 25 bornes. Et des 25 bornes du 50 km. Et on demande aux gens, on est où? Ils nous disent, vous êtes au ravitaillement de mi-parcours. Mais mi-parcours de combien? Ils disent, du 50. Mais nous, on était sur le 36. Qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, soit vous suivez le parcours dans un sens, soit vous le suivez dans l'autre. Dans tous les cas, il vous restera 25 km à faire. Et c'est là qu'on avait décidé de faire des coupés, tu vois, de trouver un chemin et tout, pour couper un petit peu. Et se retrouver sur un moment où on disait, on est passé là, mais dans l'autre sens. Et en fait, on s'était rendu compte. Mais tu vois, l'histoire une rubalise, tu peux te dire, ça peut être gros ou quoi que ce soit. Mais en fait, on s'est rendu compte avec le passage ou je sais pas quoi, tu vois, il y a un truc qui avait été un petit peu, puis on était peut-être pas attentif aussi, je pense. Tu vois, peut-être, c'est vite fait, hein, de se perdre, hein, sans qu'il y ait pas ça.
Ça m'est arrivé sur une autre course aussi, comme ça, en foot. À un moment, j'avais perdu la rubalise et j'avais suivi le gars de devant, complètement. Et puis, au bout de 200-300 mètres, je lui ai pris dessus. Je pense qu'on n'est pas sur le bon chemin. Peut-être qu'on fasse demi-tour. Il me dit, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de rubalise. On est remonté, puis après, on s'est aidé, et puis on a retrouvé le chemin, quoi. Mais bon, après, c'est... Mais finalement, en fait, c'est les courses dont tu te souviens, quoi, de celles où il arrive des petites aventures comme ça, quoi.
Bah ouais, parce que finalement, c'est ce qui te marque, c'est les petites émotions.
C'est très rigolo, quoi. C'est bon.
T'en as d'autres, des histoires comme ça?
Ouais, bah, sur cette course-là, donc c'était mon premier trail long, c'était un 33 km. Et à la fin, il restait 3-4 km. La rubalise, elle était au-dessus d'une rivière. Il y avait un peu de public. Je les ai regardés, je fais quoi? Je traverse la rivière. J'ai une tête à traverser la rivière quand je viens de faire 30 km. Il fait froid là, les gars, là, c'est l'heure de l'apéro, il est 21h là. Moi, je veux juste aller rentrer, me laver, j'en ai marre. Donc, j'ai escaladé. Pour pas traverser la rivière. Ils m'ont tous regardé avec des grands yeux. Je me suis dit, mais ils se foutent de moi, quoi, c'est pas possible. À l'arrivée, mes potes m'attendaient, parce que je leur avais dit, j'arriverai après vous, hein, une bonne grosse demi-heure, trois quarts d'heure après vous. Et ils me disent, mais t'es vachement sale. Je dis, bah, j'ai fait un train, les gars, quoi. Il faut pas passer dans la rivière. Ah. Non, pourquoi? Non.
J'allais vraiment passer dedans, alors.
J'allais vraiment passer dedans, mais en plus, j'ai vu les photos après. Je fais 1m64, donc je ne suis pas très grande. Et j'ai vu d'autres photos de filles. Les nanas, elles avaient de l'eau jusqu'aux hanches, je crois. Donc, OK, ça en était. Mais non, je ne passe pas dans l'eau de rivière à 4 degrés. Il ne faut pas déconner, quoi. À 21h, quoi. Non, il fait froid.
Mais j'ai vu une course il n'y a pas très longtemps et je me suis fait la remarque aussi, c'est que il y a quelques jours, hein, j'ai vu ça, où il les faisait passer effectivement dans un espèce de rivière aussi. Il m'était dit quand même, tu vois, début mars, passer dans une rivière comme ça avec de l'eau jusqu'aux hanches, je sais pas quoi. Je sais pas si moi j'aurais bien rigolé, tu vois, sur le coup, parce que l'été, moi j'ai fait des courses au bord de la mer où ils te font passer dans une espèce de marais, je me suis retrouvé à plat ventre dans un marais et tout, mais il faisait 30 degrés, tu vois. Bon, j'ai senti la vase pendant 3 jours, mais ça c'est pas très grave, mais c'est l'été. Mais c'est vrai que je comprends après un peu le truc en disant l'eau est froide, etc., est-ce que je passe ou passe pas. C'est vrai que tu peux te poser la question, quoi.
J'ai vraiment cru que le peu de public qui était sur ce bord de rivière me faisait une blague, quoi. Bon, OK, la rubalise, elle est suspendue à l'arbre au-dessus de la rivière, mais bon, j'y crois rien, quoi. Il y a quand même un pont où vous êtes, quoi. Donc, je vais grimper.
Et je note quand même que le public s'était placé là. Ils avaient dû avoir le nez en se disant, il doit avoir un spectacle sympa, quand même, à ce moment-là.
Ouais, je pense aussi. Puis, c'était plus très loin de la ville. Donc, je pense que c'était pas très loin si tu y allais tout droit depuis la ville. Donc, ça devait être sympa, ça devait être la petite balade du soir d'aller voir les petits rigolos qui font trempette dans la rivière, quoi.
Écoute, c'est quoi tes plus longues distances que t'es couru, en fait?
J'ai fait les Cotterelles 45 en 2019 à Paris. Donc quand on faisait pas 45, quand on faisait 47, ils nous l'ont annoncé la veille de la course.
Bah, c'est qu'ils savaient que t'étais là, en fait, c'est pour ça.
C'est ça. Ouais, c'est la plus grosse distance que j'ai faite. Ouais. Et après, en fait, moi, ce qui m'embête, bon, bah, les auditeurs le voient pas, mais je porte des lunettes et je ne cours pas avec des lentilles, donc et je vois. Enfin, j'ai pas une bonne vision de nuit. J'aime pas trop courir de nuit, donc pour le moment, je veux pas trop aller plus loin non plus parce que j'ai pas envie de courir de nuit, quoi.
Ouais.
Il y a mes lunettes, même avec les reflets, etc. Donc, je me dis que je suis déjà pas douée quand il y a de la lumière. Alors, si on m'en a eu la lumière, quoique. Ça peut peut-être améliorer.
D'ailleurs, les Cotterelles, c'était ce week-end, hein, le jour où on enregistre, parce qu'on enregistre le 21. C'était il y a 2 jours. Il y en a plein d'auditeurs qui ont fait les Cotterelles, qui ont eu la chance d'arriver, monter la Tour Eiffel, etc., sur les 80 km. Donc, c'est vrai que c'est une course. T'as un bon souvenir des Cotterelles?
Oui, c'est. Alors, moi, j'ai fait les petites distances. J'ai fait le 18, le 30 et le 45. Et ouais, c'est vraiment sympa. Après, j'ai pas mal de mes amis qui sont généralement sur les ravitaillements. Donc, ça permet aussi t'as pas 42 ravitaillements sur les Côterelles, mais ça permet les peu de ravitaillements que t'as, bah, de discuter un petit peu, de voir des têtes connues, et puis bah, ça fait du bien. Bon, après, comme je suis du genre à parler un petit peu trop, bah, des fois, ça fait une petite pause de 20 minutes, et puis tu t'aperçois que t'as une course à finir, quoi. Mais bon, comme je joue pas le podium, c'est pas grave, je peux passer 20 minutes à discuter autour d'un verre de coca avec mes amis, quoi.
Bah, en tout cas, sur les courses françaises, parce que sur les courses américaines, si tu veux arriver à grimper ton objectif d'arriver première un jour...
Oui, il va falloir que je fasse moins de pause.
T'as pas trop le temps de discuter. Mais après, sur des petites courses autour de 5 km, bon, là, il n'y a pas de ravito, donc t'as pas ce problème-là.
Hey, attends. Sur les courses aux États-Unis, sur 5 km, tu peux avoir des fois jusqu'à 2 à 3 ravito.
C'est vrai?
Ouais. T'as pas les mêmes règles, c'est un truc de malade, quoi.
Ah ouais?
Là, j'ai fait le semi que j'ai fait ce week-end... donc c'était des boucles, c'était très très long parce que c'était des boucles d'à peu près 5 km, 5 km, 5, donc 4 boucles, 4 fois la même, et bien sur chaque boucle il y avait 3 ravitaillements.
Attends, t'es en train de me dire que t'as fait donc 12 ravitaillements en 21 km?
Ouais,
12
ravitaillements. Je me suis arrêtée une fois, mais oui, il y a beaucoup plus de ravitaillements ici qu'en France.
Mais c'est énorme, un ravitaillement tous les 2 km?
Ouais, et en fait, il l'explique bien dans les consignes qu'il t'envoie avant, qui font des ravitaillements très, très, enfin, très rapprochés pour que les gens ne soient pas les uns sur les autres. Tu n'es pas obligé de t'arrêter au premier, tu attends un kilomètre de plus et tu t'arrêtes au second. Quoi. Et il y a moins de monde au second. Quoi.
Ah ouais, mais d'un autre côté, comme ça, tu n'as même pas besoin de te préoccuper de savoir si tu vas prendre une bouteille d'eau, si tu vas prendre une barre ou quoi que ce soit, parce que tu as toujours un manger.
Bon, après, moi, je cours toujours avec une bouteille d'eau, parce qu'il y a une fois sur une course où j'ai souffert de déshydratation, donc depuis, je suis un peu obsédée par l'hydratation pendant la course. Quoi.
Mais c'est vrai que c'est quand même un truc, parce que moi, sur des courses de 5 bornes que j'ai faites, même de 10. Alors 10, si, j'ai vu des ravitaillements. Il y a un ravitaillement en général.
C'est obligatoire à partir de 5 km. Au-delà de 5 km, tu dois avoir un ravitaillement. Enfin, sauf si ça a évolué la façon de faire. C'est ça la règle.
Mais là, 5 km, t'as avec des ravitaillements et tout. Puis attends, 12 ravitaillements en 21 km, c'est quand même énorme.
Sur les 5 km, t'as des ravitaillements où t'as ton petit déj, quoi, de compris, plus des gels, quoi. Donc tu te dis, mais. Sur 5 km, les gars, je suis sûr que même à jeun, ça peut passer.
Ouais, c'est sûr que même à jeun, tu peux y aller tranquille sur un 5, hein, normalement. Hein.
Normalement, ça devrait le faire.
Normalement, ça passe, les gars. J'ai en tête, quelqu'un comme Laure Blanchet, Thomas Laure Blanchet, qui dit, de toute façon, quand tu cours une heure, moins d'une heure, t'as pas besoin de te ravitailler normalement, t'as pas besoin de manger ou quoi que ce soit. Donc, un 5 km, ça passe largement crème, hein.
Ça passe. De toute façon, tu visualises le camion pizza à l'arrivée.
Mais écoute, c'est vrai que c'est peut-être d'autres pratiques, d'autres visions aussi. Je sais pas, c'est peut-être aussi leur manière, peut-être une manière aussi. Tu trouves que c'est quoi, plus festif ou comment c'est l'ambiance?
Je sais pas si c'est plus festif, c'est vraiment différent. La toute première course, je l'ai pas re-eu depuis. La toute première course, j'ai eu l'hymne américain au tout début avant de partir. Donc là, toi, t'es toute seule en disant. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont tous la main sur le cœur en train de chanter. Moi, je comprends pas. Je comprends même pas l'anglais à cette époque-là. Je parlais pas un mot d'anglais. Et là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Mais ça, je l'ai pas eu une seconde fois. Par contre, j'ai eu que sur cette première course. Donc, mais après, ouais. Par contre, t'as souvent un mec qui va chauffer un petit peu le public différemment en France. Vachement plus motivant, avec une grosse voix entraînante, etc. Et puis, il passe dans le public pour voir si tu fais bien les gestes qu'il te demande de faire pour vraiment chauffer vraiment tout le monde. Parce que en France, tu as les premiers qui jouent le jeu, puis à l'arrière, les gens le font ou le font pas. Mais là, ouais, le gars, généralement, se déplace pour vraiment motiver toute la ligne de départ, quoi.
Ouais, puis j'imagine bien que sa grosse voix là, faire les lancements et tout, un peu comme sur les terrains de basket, de catch et tout là.
Avec le mégaphone. Ouais, après, bon, ça ressemble à une course française. Parce que t'as ton dossard, t'as soit la puce qui est sur le dossard, la puce qui a la chaussure. Là-dessus, il n'y a pas de grosse différence. Après, c'est souvent les packages qu'on te donne quand tu récupères ton dossard ou. T'as pas mal de petits cadeaux en plus que tu ne vas pas avoir forcément en France. Les médailles aussi qui sont beaucoup plus grosses.
Et plus belles ?
Pas toutes, mais globalement, il y en a qui sont vraiment super jolies. Là. Celle que j'ai eue ce week-end, elle était vraiment super belle et énorme. Quoi.
Ouais, parce que j'ai une pensée quand même pour ceux qui courent le marathon de Paris, qui ont découvert la photo de la médaille qu'ils vont avoir cette année. Alors, moi, je dis 2019, ma médaille, je la trouvais belle. 2021, je trouvais que la médaille elle me plaisait bien dans le style, mais moi je l'ai pas eu, je l'ai pas couru, j'aurais bien eu. Mais alors la médaille de cette année, sincèrement, faut pas aller courir pour chercher la médaille, hein, parce que là franchement, j'ai vu qu'il y en a qui comparaient ça à un truc de casserole, tu sais, un truc. Là franchement, c'est vrai que le marathon de Paris, je pense qu'il peut s'inspirer de ce qui se fait des médailles. Puis c'est vrai que ceux qui ont l'habitude de voir les médailles de des fois d'autres courses, ils disent mais c'est quoi cette médaille là, etc. Donc là, ouais, il y a quand même, je pense certains quand ils vont entendre ça, ils vont dire oh punaise, ils pourraient faire des efforts quoi.
J'ai eu le semi-marathon de Brooklyn que j'ai fait, et là la médaille est vraiment jolie. Par contre le semi-marathon était tellement ennuyant. Et le lendemain, tu avais le semi-marathon qui partait aussi de Brooklyn et qui traversait tout Manhattan et finissait à Central Park. La course avait l'air vraiment mieux, mais alors la médaille, elle était moche, quoi. Elle était vraiment très, oui, très, très simple. Il y avait juste marqué New York City en gros. Bon, mais il n'y avait rien de plus, quoi. Donc finalement, la mienne était mieux.
Finalement, en fait, surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas aller faire la course pour la médaille.
C'est ça. Moi, j'ai mon club en France qui organise la corrida d'ici Molino. Il y a une année, on s'est raté sur le nombre de médailles. On a eu beaucoup plus de participants que de conseillers. On avait mal anticipé sur le nombre de médailles. Et malheureusement, je m'étais positionnée sur le poste pour remettre les médailles à l'arrivée. Les dernières n'ont pas eu. Et je me suis fait pas mal insulter ce jour-là. C'était très sympathique. Après, je comprends. Hein, tu fais ton premier 10 km, tu te défonces, etc. Tu n'as pas de médaille parce que tu arrives en 1h15. Je comprends que tu es un peu énervé. Quoi. Mais bon, pour respecter quand même les gens qui sont là sur leur temps perso, quoi. C'est pas de notre...
Ouais, il y a des chasseurs de médailles. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont courir pour les médailles, hein, et tout. Alors, moi, je vais te dire, hein, je plaide coupable parce qu'il y a un marathon en France qui me tente, c'est le marathon de Nantes, juste parce que la médaille, c'est un petit beurre. Hein. Donc, je ne vais jamais jeter la pierre à ceux qui font ça, mais alors vraiment, je te le dis, je te le garantis. C'est juste que cette année, je trouve que la médaille du marathon de Paris, il faut vraiment pas faire le marathon de Paris pour avoir la médaille parce que, franchement, là, moi, je suis pas super d'accord avec ce truc-là. Mais je suis d'accord aussi de dire, finalement, on y va pour plein d'autres choses, mais c'est vrai que y a des, puis on voit plein de photos sur Instagram de gens qui ont des collections de médailles, qui ont des tableaux de médailles, etc. Et en plus, je vois sur des comptes américains, des influenceuses américaines, mais on dirait qu'elles en ont des centaines et des centaines. Je me dis, mais comment ils font pour avoir autant de médailles? Mais ça s'explique si tu me dis qu'il y a autant de courses organisées dans tous les sens.
Certainement, j'en ai deux des médailles, donc ça va vite pour augmenter, quoi. Mais bon, après. Moi, je ne crois pas forcément pour la médaille et j'avoue que j'en ai. Là, je les ai gardées, celles des États-Unis, mais j'en ai pas gardé une seule de France. Quoi. Je suis vraiment pas attachée à ça. Je prends une photo juste pour avoir un souvenir au cas où si je veux la revoir, mais bon, ça prend. Quand tu déménages, ça prend de la place. Quoi.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire parce que tes médailles, après, quand tu vas rentrer, si tu rentres en France, tu vas en faire quoi?
Rien, c'est ça le problème. Ça va prendre de la place dans un carton. Et le carton, je suis limitée en place pour redéménager aussi vers la France. Donc, je vais faire une sélection de vraiment aller les deux trois qui sont vraiment super chouettes et qui avaient peut-être une signification un peu plus intéressante que les autres, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, bon, une belle médaille New York City et tout. Mais, attends, une médaille même moche avec marqué New York City dessus.
Ouais.
C'est pas facile.
Ouais. Ouais, mais enfin là, celle que j'ai eue de New York était vraiment belle. C'est aussi là le 10 du Bronx, là, de 10 miles du Bronx. Et vraiment, pour le coup, elle est vraiment très chiadée. Elle est vraiment super jolie. Quoi.
Et tant que tu es aux États-Unis, en fait, alors, tu as dit, à ton New York, tu étais inscrit sur la loterie, en fait.
J'étais inscrit pour 2020 sur la loterie. J'avais pas été tiré au sort. Et alors, je suis pas sûre de la règle, mais il y avait un moment, il y avait une règle comme quoi tu pouvais te. Tu avais le droit d'échouer deux fois à la loterie et la troisième, tu étais pris d'office. Donc, à la base, c'était ça mon but, d'essayer peut-être quand même de le faire. Et puis, bon, après, le Covid est arrivé et je me suis dit, bon, est-ce qu'on pourra courir juste un jour un marathon dans le coin? C'était pas sûr. Donc, je me suis jamais réinscrite finalement. Et puis, je pense que je suis une des rares coureuses qui, ça me fait pas rêver, quoi. ça me fait pas rêver. Je suis contente de le voir passer, mais ouais, il me tente pas. Enfin, quand je sais ce que c'est que la difficulté de courir dans Central Park, j'ai vraiment pas envie de finir les 5 derniers kilomètres dans Central Park quand ça t'a encore plein de collines et que t'es complètement cuit, quoi.
Et ouais, alors que c'est vrai que pour nous, on se dit, oh, punaise, on va aller courir, on a rêve d'aller courir, etc. Mais et franchement, j'ai la moitié des invités, quand je leur demande quelle est leur course de rêve, ils me disent, je vais aller faire marathon New York, mais moi le premier. Alors des fois, je fais une formation, je dis, ouais, mais Boston ou Chicago, ça serait pas mal, etc. Mais bon, là, il faut faire des temps mais stratosphériques pour avoir une chance de se qualifier. Mais c'est vrai que c'est drôle, parce que toi, tu dis, bon, bah moi, je suis à côté, finalement.
À côté, je suis à 6 miles du départ, mais non.
Et t'en as un, par contre, aux États-Unis qui te tenterait, tu sais, tu te dis, avant de repartir, il y en a un qu'il faudrait que j'aille faire.
Oui. En fait, il y en a un pour lequel c'est ma troisième préparation que je suis en train de faire. Donc là, je vais faire celui de Long Island le week-end du 1er mai. En fait, c'est mon inscription de 2020 qui a été reportée en 2021 et en 2022. Donc là, j'en suis à deux préparations avortées. Et j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Quoi.
Oui, tu as fait déjà deux préparations et à chaque fois, la course est annulée. Donc là, tu es à la troisième prépa en disant « punaise, pourvu que ça passe, quoi ».
C'est ça. La deuxième, j'étais contente qu'il l'annule parce que je revenais de blessure. Donc, j'étais pas sûre de pouvoir réellement aller jusqu'au bout. Et ils l'ont annulé assez tôt. J'en étais qu'à la semaine 4 de préparation. Donc bon, là, tu te dis c'est pas grave, j'ai pas encore forcé, c'était pas encore trop méchant. Mais la première, je crois que j'étais à la 8e ou 9e semaine, et là tu fais oh non.
T'attaques l'affûtage en disant non, finalement il n'y a pas de course.
Non. Et puis, ah ben il n'y a plus de course du tout. Ah ben bon, bah, je me suis vraiment entraînée pour rien. Donc ce jour-là, quand même, le jour où je devais la courir, j'avais pas envie de faire un marathon toute seule, donc j'ai fait quand même un semi-marathon ce jour-là toute seule en me disant bon. J'ai pas fait une préparation pour rien. Je suis partie toute seule faire mon semi-marathon.
Mais je me rappelle que je m'étais posé la question sur le... il y a 2 ans, et maintenant, moi, j'avais commencé à préparer Albi, et j'étais en 4e ou 5e semaine, j'avais de la forme et tout. J'ai dit, tiens, on va faire Albi, c'est projet de club. Et je m'étais dit, mais si nous l'annule, qu'est-ce que je fais? Et puis moi, je m'étais carrément arrêté de courir. Je me disais, ouais, et tout, je peux aller faire un off dans ma zone de 1 km autour de la maison, etc. Enfin, ça rimait pas à grand-chose, mais j'ai eu des invités qui l'ont fait, qui ont, eux, fait ce choix-là de continuer à faire. Moi, pour moi, la course, le problème, c'est que c'est de la liberté, c'est de pouvoir sortir, d'aller loin. Et la veille de l'allocution, on dit, t'as plus le droit de courir. J'étais allé parti loin, 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 mais j'ai fait 25 bornes, j'étais allé parti à 12-13 km, j'ai fait une grande boucle, etc. Et tu vois, pour moi, c'était... Je me dis, non, je peux pas. Tu vois, j'ai pas pu me résoudre à ça. Mais après, je comprends.
Question de kilomètres, j'ai pas eu les mêmes contraintes qu'en France. Donc, bah, c'est vrai que j'avais presque honte quand je publiais sur Strava que, moi, j'ai parti à 13 km de chez moi, quoi. Ouh là là.
Ouais.
Mais j'avais le droit, quoi, en fait. J'avais les règles de la France, les règles des États-Unis qui étaient différentes et je ne savais plus trop lesquelles appliquer. Et c'est vrai que j'avais honte quand j'allais courir sur piste, que je voyais que tous mes potes en France, bah, eux, ils couraient autour du pâté de maison, quoi.
Bah oui. Nous, les pistes étaient fermées, on n'a pas le droit d'y aller dessus.
Ouais, moi, j'ai une piste qui est vraiment restée ouverte tout du long et je courais par contre alors j'avais personne dessus à part les oies bernaches du Canada et c'est pas forcément les meilleurs alliés parce qu'elles elles font caca sur la piste donc c'est dangereux.
Elles ont franchement aucun respect, enfin les volatiles n'ont aucun respect pour les coureurs.
Aucun respect, j'ai pas une cassée de jambe à cause d'elles. Donc j'avais plus que les oies bernaches pour m'accompagner et puis voilà donc j'étais toute seule comme une idiote à tourner en rond avec mes oies. C'était dur aussi, quoi, mais c'était pas la... Bon, après, j'avais quand même ce sentiment de liberté où, moi, j'ai encore une piste, quoi.
Mais c'est vrai, t'as eu cette chance-là, et puis c'est chacun après les règles, hein, les pays ont fait varier les règles et un petit peu le fonctionnement, suivant tous les cas qu'on a eus. Puis certains qui ont triché aussi. Moi, je me rappelle qu'un soir, j'étais parti courir, j'étais sorti de ma zone sur le deuxième confinement, je crois, où j'étais dans les horaires, tu sais, je me suis trompé dans les horaires. Et j'avais eu un sentiment d'illégalité, mais incroyable.
J'avais ce sentiment-là parce que j'étais française. Ok, j'étais aux États-Unis, mais j'étais française et j'écoutais les infos françaises. Et il y avait toujours un moment quand j'ai passé la limite des 1 km, j'étais là. Mais quel rebelle! Ah, mais non, j'ai le droit. C'est quand même le moment où, au début, tu fais. Et puis, non, puis tu te dis, mais non, en fait, ouais, ok, t'es française, mais t'es plus en France, là.
Ouais, là, t'as les règles américaines qui s'appliquent, profites-en, etc. Mais la question que je me posais, tu vois, c'est par rapport à ton. Tu sais, je parlais tout à l'heure du marathon de Boston, des choses comme ça. T'es pas résidente, en fait. T'as pas des règles. Tu peux pas t'inscrire plus facilement à ces courses.
Je pense que quand même, si je peux m'inscrire plus facilement, parce que j'ai une adresse postale aux US. Et là, autant sur les courses, au début, je disais bien que j'étais française, etc. Maintenant, je dis que je suis US, parce que de toute façon, j'ai le permis US. Donc, et c'est plus facile. C'est vrai qu'avant, c'était un peu plus compliqué de s'inscrire. Maintenant que je mets juste mon adresse et que je marque que je suis des États-Unis, c'est vachement plus simple.
Parce que c'est ça, en fait, il y a des règles un peu spéciales et tout sur les grandes courses, sur les quotas et tout. Tout à l'heure, je parlais de Boston, mais les règles, quand tu es américaine ou quand tu es française pour aller courir à Boston, c'est pas tout à fait la même règle hein, sur les inscriptions. Pour ça que je disais peut-être que.
J'ai des amis avec qui j'ai couru ce week-end qui sont de France, et qui m'ont dit, ah, on aimerait bien faire telle et telle course. Nous, comme on n'est pas américain, bon, les gars, vous n'êtes pas américain, vous avez mon adresse postale, on peut, sur un malentendu, vous habitez chez moi, quoi.
Alors, sur un malentendu, les milliers de personnes qui sont en train d'écouter cet épisode viennent de déménager chez toi. Alors, fais donc un peu de place.
On a de la place.
On va donc inviter tous ceux qui écoutent, qui ont rêvé de faire le marathon de New York, etc., viennent de s'installer. Tu vois, ils viennent prendre un petit billet. Tu veux qu'ils te ramènent quelque chose de France, hein, pour un petit peu de nourriture, un truc comme ça?
Du saucisson, des fraises tagada et des chocs à pique. C'est compliqué ici. C'est ça qui nous manque.
Ouais. Saucisson, tagada et choc à pique. Eh ben écoute, je sais pas si c'est le menu le plus.
En veille de course, je suis sûre que c'est extraordinaire.
Et ça se trouve, c'est ce qui te manque pour gagner une course.
Et peut-être, c'est ce qui me permettrait de passer de la numéro 2 à la numéro 1 au niveau des places.
Bon écoute, en tout cas, c'était super sympa de discuter avec toi. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé quand même, parce qu'on l'a dit, et on peut pas finir l'épisode sans parler de ça. T'as couru enceinte jusqu'à 5 mois? T'étais enceinte?
C'est la fin de mon cinquième mois. Ouais.
Ouais, et t'as des conseils parce qu'il y a plein de peut-être de jeunes femmes qui pourraient écouter, à qui ça, qui se disent mais comment je vais faire?
Mais il faut trouver le bon médecin. Et en fait, il n'y a pas trop. Enfin, moi, mon fils va sur 8 ans, donc j'espère que ça a évolué depuis. Mais moi, il n'y avait pas trop de conseils. Et en fait, ce qu'il disait juste, c'était de ne pas trop forcer, de ne pas aller chercher à faire du fractionné. De ne pas se surentraîner, et puis il y a un moment, de toute façon, tu as moins de souffle, il y a un moment aussi, de toute façon, tu ne vois plus tes pieds, donc il y a un moment, tu te dis, il faut que tu abandonnes. Et à partir du quatrième mois, je ne faisais plus que sur la piste, et vraiment très tranquillement, parce qu'au moins sur la piste, tu as du rebond, puis j'étais sur les heures où il y avait mon club qui était, donc j'étais pas toute seule. Si je tombais, il y avait quelqu'un pour me ramasser. Enfin, mais voilà, c'est vraiment, je me suis écoutée. Et puis finalement, si j'ai fait mon premier semi-marathon enceinte.
Ah oui.
Ouais, le tout premier semi-marathon, je l'ai fait avec mon fils. Donc maintenant, il est au taquet, il court tout le temps. Donc je me dis que c'est peut-être de ma faute.
Bah non, c'est grâce à toi, c'est pas de ta faute, c'est grâce à toi.
C'est grâce à moi. Donc ouais, j'ai fait mon. En fait, je me suis inscrite au semi-marathon. J'étais pas enceinte. Et au moment où la course se faisait, j'étais enceinte quasiment 2 mois. Et bah, j'avais l'entraînement. J'avais demandé à mon médecin, à plein de médecins, il m'avait dit, bah, écoute, tente moins vite. Et je crois que la réponse la plus hallucinante que j'ai eue, on n'est pas bien sûr qui va s'accrocher, donc bon, au pire. Hein. Ah, ok, d'accord.
Mais attends, et ça me semble quand même extraordinaire de dire ça, parce que on est au 21e siècle, ton fils est à 8 ans, donc si mes calculs sont bons, c'est du 2012-2013 que t'étais ta grossesse.
Ouais, j'ai accouché en 2014, donc ouais. Ouais.
Ouais. Que des médecins ne sachent pas ce qui va se passer si tu cours, que tu puisses courir ou pas avec un enfant, tu penses à un enfant, mais ça me semble juste complètement dingue.
J'ai échangé, je gère la partie com de mon club aux US sur Instagram, et j'ai échangé avec une coureuse là, qui ce week-end a fait le semi-marathon et qui est enceinte. Qui est enceinte, bah, qui est vraiment quasiment à 6 mois, et ouais, à peu près à 6 mois. Et je lui ai demandé si les conseils, je lui ai demandé, je lui ai dit, excuse-moi, C'est un peu curieux, mais voilà, moi j'ai couru jusqu'à la fin de mon cinquième mois. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Et il y a les mêmes conseils finalement. Quand tu peux, tu peux. Si tu vois encore tes pieds, ça va. Quand tu commenceras à plus trop les voir, arrête. Et puis ralentis. Et là, en fait, elle a mis sur le SMIT, voilà, elle a mis 2h25. Et normalement, ses temps, c'est 2h10. Donc voilà, elle a ralenti. Elle a juste ralenti.
Mais elle ralentit, le pourcentage de ralentissement n'est pas si énorme que
non.
ça, j'ai envie de dire.
Non, ouais. Et par contre, il y a un truc qui est assez hallucinant, c'est que. En post-accouchement, tu récupères, bon, après la rééducation, etc., tu récupères plutôt pas mal, quoi. Enfin, moi, j'ai fait mes records en post-accouchement, quoi. Donc finalement, en fait, le corps se déshabitue pas tant que ça, quoi. C'est assez hallucinant. Bon, alors, au début, t'es quand même lourde, etc., tu t'essouffles beaucoup plus vite. Mais, ouais, il m'a refallu, quoi, 6-7 mois pour me ressentir bien, quoi. Donc, c'est pas si énorme que ça, quoi. Alors finalement, c'est ouais. une post-blessure quelque part, quoi.
C'est vrai que des fois, on entend le truc de dire 9 mois pour accoucher, 9 mois pour s'en remettre. Enfin, pour accoucher, pour préparer, pour la naissance. J'avais fait un épisode avec Elsa Dunaigre, on en avait parlé, parce qu'elle fait des, elle est spécialisée dans le domaine, etc. Elle fait même des accompagnements, etc. Il y a toute la question de la rééducation du périnée, enfin tout ça à gérer, mais après une fois que c'est géré, finalement que tu peux recourir quand tu as l'autorisation, ce que tu dis c'est que finalement tu arrives à retrouver assez rapidement tes capacités, quoi.
Ouais, assez rapidement, et puis moi ce que j'avais vu aussi comme conseil, c'était, j'en sais rien, c'était 12 fois 400 à faire, tu en fais que 30%. C'était la règle que ma gynécologue m'avait fixée, tu ne fais que 30-40% au début, déjà tu seras contente, tu auras fait 3-4 tours de piste. Voilà, et puis, si ça passe la fois d'après, t'en fais un de plus, tu y vas tranquillement et il va falloir un peu de temps, tu vas pas refaire un semi tout de suite, mais c'est pas grave, enfin, t'es déjà content, tu peux recourir, puis de toute façon, t'es tellement en déficit de sommeil que t'as peut-être pas forcément envie de rentrer dans une grosse prépa, voilà.
T'as fait ta première course combien de temps après la naissance de ton fils?
Il est né en juin, il est né fin juin, et j'ai fait l'équidène de Paris, je dirais que c'était début octobre. Alors je m'étais mise sur le 5 km parce que j'avais peur d'handicaper le reste de l'équipe, je voulais pas me faire sur un 10. Et ma grosse fierté, c'était Marie-Jo Pérec qui courait aussi sur le 5 km, je l'ai explosé. Ok, d'accord, c'est pas une coureuse de 5 km, mais j'avais mis 28-29 minutes et elle avait mis 30 secondes de plus que moi, mais là j'étais tellement fière. J'ai accouché depuis 3 mois et demi, j'explose à Marie-Jo Pérec.
Attends, non mais c'est exceptionnel. T'as grillé Marie-Jo Pérec sur un 5 km.
Ouais, mais pour le coup, c'est vraiment pas sa distance, donc ça me paraît en fait pas si déconnant. Mais...
Non, mais c'est énorme parce que tout le monde a en tête Marie-Jo Pérec, championne olympique, le 400 mètres, la gazelle qui court à cette vitesse-là, etc. Mais c'est bon de le rappeler quand même. Hein. C'est vrai que des gens qui font du 400 sont pas forcément des gens qui vont faire une endurance exceptionnelle, etc. Mais enfin, franchement, attends, la fierté. Tu vois, moi je t'ai invité parce que tu avais fini dernière d'une course, mais je savais pas que tu avais grillé Marie-Jo Pérec.
J'étais trop fière. Je suis tellement loin de mes temps d'avant, mais c'est pas grave, j'ai couru et en plus j'ai battu Marie-Jo Pérec qui m'a fait rêver quand j'étais gamine, quoi.
Moi je trouve ça extraordinaire la course, ce que ça permet quand même, parce que c'est vrai qu'il y a c'est des aventures incroyables quand tu regardes tes années de course, quoi.
Ce que je te disais, je me souviens surtout des anecdotes où je me suis perdue, où je suis tombée, en plus je suis un peu une princesse quand je cours, enfin, sur le dernier éco-trail que j'avais fait, à un moment je suis tombée la tête la première, les mains dans la boue. Moi je suis une princesse, je salis pas mes mains. Donc je me suis relevée, j'ai regardé mes mains, j'ai fait « oh c'est tout beurk ». Et là il y a plein de mecs derrière moi qui m'ont regardé, je fais, c'est un 13. Ah oui, mais moi, j'aime pas courir les mains sales. Les genoux, aussi, mais pas les mains. Donc, les mecs m'ont vu m'arrêter, vider un petit peu ma gourde pour me laver les mains. Et je me suis dit, je vais leur laisser un souvenir, mais incroyable, quoi. Ils ont dit, c'est quoi cette nana, quoi.
Non, mais je trouve ça génial, en fait. Parce que et on a tous des tocs, des petites manies, des trucs comme ça. Mais en fait, il y a plein de gens qui n'osent pas le dire. Mais il y a plein de gens qui n'osent pas le dire ou qui se sentent un peu seuls dans leur truc de se dire, tu disais la traversée de la rivière, tu as les mains sales, les choses comme ça, mais il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans, mais on les voit pas sur Instagram, on les voit pas sur Strava, il y a personne qui leur raconte ça.
Ça me fait marrer, en fait, ça me fait marrer, quoi. Je me dis vraiment, c'est comme ça que je vais me souvenir de telle et telle course parce qu'il m'est arrivé ça, quoi. Ouais. Voilà, la course aussi où je me suis perdue là aux États-Unis, à un moment, j'ai pas vu une pierre, j'ai volé, j'ai fait 3 mètres en l'air, quoi. Et le petit monsieur qui servait, qui faisait à ce moment-là les indications, me dit ça va. Bon, je suis tombée, quoi. Ça va, j'ai pas l'air d'avoir de gros bleus, donc je peux repartir. Il me dit, mais t'as volé? Oui. Bah, j'avais qu'à regarder mes pieds, hein. Qu'est-ce que je te dise?
Mais je crois que tout le monde a fait un vol plané. J'en parlais ce matin avec ma fille, qui a 4 ans, et elle me dit, papa, des fois tu tombes. Je dis, bah oui, ça m'est arrivé de tomber, ça m'arrive. Je dis, regarde, là, tu vois le truc, je suis tombé un jour, je me suis cassé le coude, en sortant mes poubelles. Hein. Donc je précise quand même, parce qu'il n'y a rien d'épique dans l'histoire, mais c'est vraiment le truc le plus con qui peut t'arriver. Tu sors de la poubelle, tu glisses, bam, tu te casses le coude. Ça, c'est moi, tu vois, tranquillement. Mais après, je me suis rappelé que j'avais raconté, j'ai pris un gros gadin dans une forêt, tu vois. Et là, je pense que j'avais les mains vraiment sales, mais vraiment, parce que j'ai pris vraiment un gros gamin en pleine forêt de nuit, et c'est vrai que j'avais le sentiment d'avoir fait un espèce de vol plané super long, etc., parce que c'était tout lancé. Et on a tous des anecdotes comme ça sur les trucs. C'est vrai que des fois on n'est pas très fier, on se dit ouais, ce truc là, bon, je raconte pas trop, etc., mais ça décomplexe en fait.
C'est pas au niveau où je cours, je suis pas, je fais podium ici parce qu'il y a pas beaucoup de monde sur les courses, etc. C'est des certaines courses bien spécifiques. Mais globalement, je me suis mise trop tard pour être rapide. J'ai pas un physique qui me permet d'être très rapide. Je m'entraîne sérieusement, je fais mon plan, etc. Mais voilà, je suis pas là pour jouer la gagne. Je suis pas là pour être sélectionnée au JO. Donc autant s'amuser, quoi. En fait, c'est juste ça, autant s'amuser. Et puis si on finit en étant frais, bah, c'est encore mieux, quoi.
Bah, tu sais quoi, en fait, illustre parfaitement ma philosophie du positive running. Alors là, t'es pile poil dans le, alors vraiment dans le truc. Mais c'est ce que je dis, en fait. Tant qu'on court, qu'on a du plaisir, qu'on a le sourire, que ça nous fait du bien. Tu parlais au début de dire que c'était aussi tes moments d'évasion ou de réflexion quand les journées étaient compliquées, etc. En plus, je pense que, on n'a pas parlé, mais t'as rencontré des gens courant comme ça aux États-Unis.
J'ai pas mal, que ce soit aux États-Unis ou en France, j'ai pas mal de mes amis qui sont en fait des coureurs. Et puis finalement, en fait, moi, c'est aussi mon moment de partage. Là, quand j'ai des sorties de 2 heures, bah, tu parles 2 heures. Bah, t'as pas le luxe en tant que maman de pouvoir t'installer normalement 2 heures autour d'un café pour parler, quoi. Alors que là, je suis pas en train de traîner ou etc. Je suis dehors en train de m'aérer avec des amis, en train de papoter de ci, de ça. Et puis, ouais, tu crées des amitiés. Après, tu passes les gens chez les autres, tu t'invites. C'est vachement cool, quoi. Et il y a un truc qui est souvent dit sur les États-Unis, c'est que c'est très difficile de lier d'amitié avec un Américain. Bah, c'est faux. Mets-toi à courir avec un Américain et puis il t'invitera chez lui à Thanksgiving, quoi.
Ah ouais, et on dit ça des Américains parce que tu vois, moi j'ai l'impression quand même que les Américains étaient quand même plus. C'était plus facile, tu vois. Moi, mes souvenirs aux États-Unis, j'ai l'impression que c'était plus facile d'être invité chez un Américain.
Ah, ils sont très accueillants à parler comme ça dans la rue, à ce qu'ils appellent du small talk, juste du parler de la pluie et du beau temps. Mais pour rentrer dans leur cercle, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, après, en même temps, comment tu fais aussi en France pour rencontrer du monde quand tu habites dans une nouvelle ville, bah, tu t'inscris à des activités sportives, à des activités culturelles, etc. En fait. Et puis quand tu as un enfant, bah, ça aide aussi de rencontrer les autres parents de l'école. Donc finalement, je suis pas sûre que ce soit si plus compliqué ici qu'en France. C'est juste qu'il faut aller faire la démarche, d'aller demander aux gens de partager des choses avec toi, quoi.
Et voilà, et c'est vrai qu'on peut le dire, hein, le running peut faire partie justement des moments où tu peux rencontrer des gens, tu peux... Mais ça, c'est un truc qui est sûr, en fait, parce que, en plus, je l'avais vu dans des bouquins où les auteurs, mais même Murakami dans son journal de coureur, il le dit, hein, qu'au bout d'un moment, il a fini par discuter avec d'autres gens, il a fini par se lier avec des coureurs de l'équipe d'athlétisme, de je sais pas quoi, etc. Tu vois, enfin, tu finis par reconnaître des gens, tu finis par les croiser. Je fais un petit coucou d'ailleurs parce que hier je rigolais, je voyais des gens qui passaient en courant, je dis ah bah tiens, je la connais. Et ma femme elle me dit mais comment? Bah, je dis elle est sur Instagram, elle court. c'est tellement logique en fait. Et ma fille des fois elle me dit mais comment tu connais cette dame? Bah je dis elle court au club. Et puis donc c'est vrai, cette notion sociale de la course à pied qui est réelle. Moi sur les courses aussi, combien de fois il y a des gens que je dis, ah bah tiens, on s'est vu à tel endroit, etc. Et des gens que je suis maintenant et avec qui je discute régulièrement, que je n'ai connu que grâce aux courses, parce qu'on se croisait sur toutes les courses.
Tu partages une autre passion et c'est pas qu'un sport solitaire. Alors oui, quand tu fais tes 1000 mètres sur ta piste, peu tout seul, soit, mais quand tu vas faire juste un run pipelette, c'est génial, quoi. Tu passes un bon moment, quoi.
Et ben moi, tu vois, je pense que c'est une super conclusion, en fait, cette histoire. Parce que en fait, on a abordé plein de sujets et puis c'était vraiment drôle de raconter toutes ces anecdotes là, etc. Parce que en fait, ça décomplexe beaucoup, tu vois, de parler de ces trucs là, de parler de ces gadins, de cette dernière place, de ces victoires aussi, presque victoires hein, finalement. T'en es pas loin. Franchement, tu vas la voir avant de partir.
De prévu donc tout est possible.
Tout est possible, exactement, c'est une bonne conclusion, tout est possible. Bon, en tout cas, écoute, pour conclure, on va quand même dire, où est-ce qu'on peut te suivre, parce que en plus, tu as plusieurs activités sur Instagram, notamment.
Sur Instagram, mon pseudo, c'est flesco-du-by-estelle. Et puis sinon, j'ai aussi deux blogs. J'en ai un qui traite de l'alimentation aux États-Unis et qui s'appelle What the Food. Laisse deviner le pourquoi, le what the. J'ai un autre blog aussi. Alors là, je ne suis pas que pour eux, je fais plein d'autres choses. Je couds, je tricote, etc. J'ai un autre blog qui traite de ça, en fait, qui traite de toutes mes passions en général. Donc, il y a de tout. Et ça s'appelle D'ici à Tinec, D'ici comme la ville, D'ici les Moulineaux. Et Tinec, là où j'habite actuellement aux États-Unis. Quoi.
Alors, tu me donneras tous les liens. Moi, je partagerai ça pour ceux qui sont intéressés. T'as pas réussi à faire un jonction entre la course à pied et le tricot ?
De toute façon, mon compte Instagram est un gros bazar. Mais voilà, c'est parce que j'aime trop de choses pour avoir qu'une seule catégorie. Donc, en gros, j'ai des coachs qui vont me suivre, des coachs de running, et puis j'ai des tricoteuses, j'ai des couturières, j'ai un gros bazar, et puis il y a des gens qui me suivent juste pour mes voyages au plein milieu, au plein fin fond des États-Unis. Donc ouais, j'ai une communauté un peu disparate, mais c'est ça qui me plaît. J'arrive pas à cataloguer, à faire un compte uniquement running, un compte uniquement tricot, je trouve ça un peu triste.
Et il y a un truc que tu m'as pas dit, parce que je viens de le voir sur ton Instagram, mais ta troisième place, là, l'autre jour, ils t'ont donné la mauvaise catégorie.
Eh oui, j'ai fini troisième masculine. Voilà. En fait, j'ai tellement discuté avec le gars qui s'occupait de rendre les plaques et les petits trucs. On a rigolé. Le gars d'avant moi qui a demandé pour voir s'il avait gagné, il était français aussi. Et puis il me dit, mais toi aussi, t'as un accent, tu viens d'où? Bah de France. Toi aussi, tu viens de Marseille, comme le gars? Non, de Paris. Il me dit, mais t'as pas le même accent. Je fais, bah ouais, j'habite dans le New Jersey, donc j'ai l'accent du New Jersey. On a un petit peu parlé, et en fait, je pense qu'il m'a pilé la mauvaise plaque, et puis j'ai un petit peu souffert sur ce semi. Donc bon, bah, j'ai envoyé la photo à mon mari qui me dit, t'as fini troisième mec? Non, j'ai fini troisième féminine. Bah t'as une plaque, troisième mec. Ah ok. Bah écoute, c'est plus pour moi ça.
Et les gens vont être quand même surpris parce que à Brooklyn, il faisait beau quand même hein, ce jour-là. Attends.
Non, mais c'était assez fou parce que toute la semaine, ils annonçaient de la pluie. Sur ce matin-là, on est arrivé, il y avait un brouillard à couper au couteau. Et il y a eu de la pluie au tout début. Et là, j'étais là, bon, je cours avec ou sans la casquette. Bon, allez, vas-y, on va le tenter sans la casquette parce que normalement, à 10h, il arrête de pluvioter. Et quand on a fini à 11h30, il y avait un soleil qui tapait. Bonne chaleur et beaucoup d'humidité surtout, mais ça c'était le plus dur à gérer parce que là, encore 5 jours avant, j'avais une tempête de neige où j'avais encore 7-8 cm de neige, donc voilà, c'était le temps aux États-Unis est très très changeant, enfin surtout côté New York quoi.
Ouais, côté New York, hein, c'est vrai que c'est un temps où il y a de la neige, beaucoup de neige, il peut y avoir beaucoup de neige en hiver, il peut faire très chaud sur d'autres périodes, etc.
Même en hiver, il y a eu un week-end, la première année où on était là, juste un week-end, il a fait 21 degrés au mois de janvier. Quelques jours plus tard, il y a les tempêtes de neige. Voilà. Le temps est bipolaire.
Voilà. Eh ben écoute, le temps est bipolaire. Vous le saurez si vous partez à New York.
On va faire des courses au mois de janvier et au mois de février. Sinon, vous pouvez vraiment vous geler les fesses.
Ouais. Mais si vous voulez être sûr du temps, Emmitt, remarque, et au Canada, tu sais, eux, ils sont sûrs, il fait toujours froid à l'hiver. Hein. C'est plus logique, hein, plus facile à gérer. Mais bon, c'est vrai que New York fait quand même rêver. Et c'était sympa. Bon, peut-être Je sais pas. Enfin, avant de partir, tu vas quand même essayer de faire le marathon de New York, même si.
Ça me paraît mal engagé. Et puis j'ai un copain avec qui je cours là, qui me dit bon, bah, si ton premier marathon te plaît, j'ai le marathon le plus flat du coin à te faire faire si tu veux au mois d'octobre. Donc, enfin ouais, on va déjà voir si le premier me va et on verra si je fais un deuxième. Donc, je pourrais pas quand même enchaîner un marathon mi-octobre et un autre début novembre. Donc, franchement. J'abandonne pour le marathon de New York sans avoir réellement pensé à le faire.
Le principal, c'est de prendre plaisir en courant. En tout cas, Estelle, écoute, c'était un plaisir de discuter avec toi. Et on a bien rigolé quand même, hein, avec toutes ces anecdotes. Mais qui vont, je le répète, ça fait partie aussi de nos anecdotes. On se rappelle de tous ces trucs-là, des gadins, des trucs qu'on oublie, des départs ratés ou qu'on a failli rater, etc. Et on peut en raconter plein. Hein. On peut en raconter plein. Combien de fois j'ai raconté mon histoire de... mon pacer là, de pas le pacer là, le meneur d'allure du marathon de Paris, qui me dit oui tout, je fais ça, puis qui au bout d'un moment, quand il va faire un petit pipi, il revient pas au même endroit et je le perds alors qu'on avait passé du temps à discuter ensemble de la stratégie pour comment faire 3:30, etc. Bon bah ça arrive, fait partie voilà du charme des courses comme ça. En tout cas, merci beaucoup Estelle, c'était un plaisir. Je mets bien sûr tous les liens pour te suivre, pour ceux qui voudront découvrir un petit peu les aventures, parce que tu partages, comme tu disais, hein, sur plein de choses. On a compris tes prochains objectifs. Je te souhaite une belle réussite, en tout cas.
Tu verras si je finis peut-être premier masculin sur ma prochaine course. J'ai peut-être aussi ça que tu dis, hein.
Ça serait un sacré exploit quand même, parce que alors là, t'arriverais à faire un truc de assez dingue. Mais écoute, va savoir, on sait jamais. En tout cas, je te souhaite une belle continuation. Je te souhaite des belles courses, des beaux entraînements, des belles séances, un beau marathon, en tout cas, hein, en attendant de voir après si ce que t'en penses. Et puis, bah écoute, merci beaucoup. Voilà, je te dis merci beaucoup. Et puis bah nous après bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors je sais pas si on va arriver à vous faire rigoler toutes les semaines autant que cette semaine, mais en tout cas voilà, positive running, on est vraiment dans cet esprit là. Et bah écoute, merci en tout cas beaucoup Estelle. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.